Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Aucun élément déclencheur ne permet vraiment d'expliquer ce qu'il s'est passé autour de Deutsche Bank vendredi. Et pourtant, il y a bien eu un mouvement de panique autour de cette banque allemande, même si elle a sacrément redressé la barre depuis 2 ans. Bon, elle n'est pas Crédit Suisse. Et pourtant, la question qui hante tout le monde aujourd'hui, c'est à qui le tour ? Désormais. La Seine-Saint-Denis devrait aujourd'hui, selon le Parisien aujourd'hui en France, renoncer à l'expérimentation de la mise en place du RSA sous condition, expérimentation qui a été lancée en janvier dans 19 départements, alors plus largement. Je posais la question de savoir si ce RSA, sous condition, on est capable de le mettre en place. Comment fait-on pour le mettre en place ? Et s'il ne faut pas aller plus largement vers la grande idée du revenu universel plutôt que de tripatouiller désespérément ce type de dispositif comme on a pu le faire au préalable avec le RMI. Autour du débat sur les retraites, il y a une problématique fondamentale qui n'a pas été abordée, celle du recul des gains de productivité. Ça fait des années qu'on entend les gens dire « Ah bah oui, on a peut-être plus de chômage, mais on est beaucoup plus productif que les autres ». Ça a été vrai. Ça a été vrai, mais ça n'est plus vrai. C'est un sujet absolument central. On évoquera aussi la guerre de succession qui s'ouvre aujourd'hui à la CGT. Les partisans de Céline Verzeletti sont opposés à la candidate présentée par Martinez, Marie Buisson. Ils craignent une CFDTisation du syndicat. Bonjour Stéphane Carcillo.
Bonjour.
Bienvenue responsable de la division Revenu Travail de l'OCDE. Professeur associé à Sciences Po, membre du Cercle des économistes, Léonidas Kalogiropoulos, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes PDG de Médiation et Arguments, vice-président d'éthique, délégué général de l'Open Internet Project. Et vous avez fondé les Entrepreneurs pour la République, une place de marché Internet où il y a des solutions d'entrepreneurs aux enjeux du pays. Bonjour Xavier Thimbault.
Bonjour Nicolas Dose.
Directeur principal de l'OFCE. Le seul élément d'explication que l'on peut apporter sur le cas de la Deutsche Bank est que il semblerait que la Deutsche Bank ait dans son portefeuille une exposition assez importante à l'immobilier commercial américain. Et donc, à la suite de la chute de SVB, on a vu que le CDS, ce produit d'assurance contre le défaut d'un établissement, en l'occurrence Deutsche Bank, a doublé et que jeudi, il avait pris 33%. Et donc, il y a eu cette dégringolade boursière vendredi dernier. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, dit Olaf Scholz. Le modèle économique de la Deutsche Bank est très rentable, dit Christine Lagarde. Il y a toujours de la part des responsables institutionnels et politiques, ce message du « Non, ne vous en faites pas, tout va très bien se passer, nous sommes là, n'ayez pas peur ». Et pourtant, tout le monde se demande s'il y a un parfum de 2008, tout le monde se demande s'il y aura un domino, tout le monde se demande qui est ce domino. Un mot là-dessus, peut-être, Léonidas Kalogiropoulos.
Je ne suis pas certain que la seule possibilité d'avoir une crise bancaire, ce soit une question de domino. Je pense que l'on est devant un phénomène d'exposition des banques à l'accélération sans précédent de l'augmentation des taux d'intérêt et que ça crée des déséquilibres. Que les banques centrales aient voulu se focaliser sur la seule mission qu'elles considèrent être la leur, qui est de lutter contre l'inflation, qui dit ça c'est notre job, on fait notre job et le reste on ne veut pas le regarder. C'est une décision assez étonnante, manière de dire on est dans notre coin, dans notre couloir de natation et on fait de manière focalisée à rythme régulier les augmentations de 0,5 points de base de façon presque aveugle. Bon, ça crée des déséquilibres, je ne vois pas comment ça ne pourrait pas en créer. Et en dehors des questions d'effet domino, là où ça a fragilisé un certain nombre de banques, ça peut en fragiliser d'autres. Donc oui, c'est un élément de déséquilibre, que soudain toutes les capacités que l'on avait à aller trouver des emprunts deviennent plus compliquées parce que les taux d'intérêt, c'est le cas pour les États, c'est le cas pour les banques, c'est le cas pour des entreprises.
Là, les États, ils en profitent, parce que les taux longs du souverain public, c'est en train de descendre. De l'obligation souveraine.
D'accord, mais cela dit, ça crée des déséquilibres partout, et donc là, on commence à décélérer le rythme de l'augmentation des taux, parce qu'on se dit, tiens, bien, c'est marrant, oui, ça a des dommages collatéraux. Oui, mais pardonnez-moi, c'est aussi quelque chose de très paradoxal. On le fait pour avoir des dommages collatéraux. On veut ralentir l'économie. On veut que ça décélère. Il y a un moment donné où la décélération, eh bien, c'est aussi des boîtes qui tombent. Donc, il faut quand même mesurer.
Mais là, on n'est pas sur des boîtes, on est sur des acteurs financiers. C'est toujours plus grave qu'une entreprise isolée.
Voilà. Mais bien entendu, et donc c'est peut-être là que les premiers effets graves sont en train d'apparaître. Et j'entends bien que chacun est dans son rôle de dire que tout est rassurant, que tout va bien. Je pense que l'on a commencé à faire ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire décélérer le rythme de l'augmentation des taux.
Vous êtes dans l'école de ceux qui disent aux banques centrales, stop, n'allez pas trop loin, ne cassez pas tout.
C'est la première fois que je vous entends tenir ce discours. Absolument, d'autant que ce n'est pas le seul facteur de décélération de l'économie. Si on veut que l'économie décélère, je suis désolé, il y a suffisamment de facteurs en ce moment pour que la croissance ne soit pas, comment dirais-je,
une particularité quand même quand on parle du secteur financier. Les banquiers centraux vous expliquent qu'ils vont conserver effectivement leur action contre l'inflation, mais qu'ils disposent de tous les outils pour apporter toute la liquidité qui sera nécessaire au système bancaire. Vous avez vu ce qu'a mis en place la Fed quand même.
Tout à fait, c'est paradoxal.
Mais un banquier central est paradoxal.
Oui, d'accord.
Il peut être pompier et pyromane en même temps. Oui, c'est une particularité.
D'accord, il est au maximum de son pompier et au maximum de son pyromane. Il y a un moment donné où la schizophrénie a des limites. Oui.
Les liquidités d'urgence classiques de la Fed ont été renforcées par un nouveau dispositif mis en place après la chute de SVB, un dispositif qui permet...
Pour corriger l'effet de ce qu'ils ont fait.
Oui, pour qui permet effectivement à un établissement financier d'avoir une liquidité à horizon un an, en cédant des obligations que la Réserve fédérale américaine achète en valeur d'acquisition et pas en valeur faciale. Pas en valeur de marché. Ce qui veut dire que, voilà, les parapluies sont là.
Mais Nicolas Dos, vous voyez bien que c'est exactement l'effet inverse. Si on prenait que cette accélération des liquidités, ça a un effet inflationniste automatique. Et par rapport à une politique comme celle-là, il faut augmenter les taux. C'est-à-dire, vous avez le même acteur qui est dans une spirale d'incitation à l'inflation et de lutte contre l'inflation. C'est quand même, il y a un moment donné où, en termes de rationalité et de bon sens, on a atteint les limites du bord du cadre.
Hein. Et les outils technologiques des banques centrales sont comme l'intelligence humaine sans limite. Oui. Xavier, par rapport aux banques centrales, ça fait longtemps que Leonidas considère qu'elles sont pompiers pyromanes et qu'elles ne peuvent pas aller jusqu'à précipiter les économies en récession pour juguler une inflation dont une partie de cette inflation échappera à l'arme des taux d'intérêt. Et là, vous vous dites quoi? Vous vous dites que ça y est, la facture est tombée, il n'y a pas de repas gratuit, et on se rend compte de la situation qui est en train de nous apparaître jour après jour.
Moi, je rejoins Leonidas sur ce point, c'est-à-dire qu'on était face à un choc très particulier, qui était un choc lié à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
Choc énergétique au début.
Pas seulement, mais en tous les cas.
Oui.
Mais avec en grande partie cette dimension énergétique, qui est un choc puissamment récessif. Mmh. Et donc, le ralentissement de l'économie, il était provoqué par ça. Auxquelles les banques centrales ont réagi de façon très forte en voulant contrer d'entrée de jeu les effets de second tour de cette inflation et aussi intégrer dedans l'inflation qui aurait pu résulter de la sortie du Covid. Bon, elles ont eu une politique comme on n'en a jamais vu en fait. Hein.
Jamais.
Que ça a été d'une brutalité dans la remontée des taux qui en fait n'a pour pendant que la brutalité avec laquelle elles avaient baissé.
400 points de base aux États-Unis en un an.
Voilà.
Et donc, c'est hallucinant.
Ça a été un mouvement extrêmement fort. Après, toutes ces choses-là jouent avec un certain décalage. Les banques sont un acteur particulier qui collecte un petit peu l'état de santé de toute l'économie. Alors, on peut dire que la Deutsche Bank a un modèle d'affaires qui est rentable. Mais on peut se demander comment va évoluer cette rentabilité avec une récession ou un ralentissement très fort de l'économie. Et puis surtout, la rentabilité, c'est une chose, mais il y a un bilan aussi dans une banque. Et comment vont évoluer la valeur des actifs de cette banque? Et là, il y a un risque, parce que cette valeur des actifs, elle peut démultiplier.
Notamment s'il y a beaucoup d'immobilier commercial américain.
Comme vous le disiez. La régulation bancaire a normalement mis en place des éléments qui permettent d'absorber des chocs importants sur le bilan bancaire et sur le modèle économique.
C'est l'argument qui est répété depuis
10 ans. Depuis 2008 et depuis ces régulations bancaires, la Banque Centrale demande aux banques des stress tests pour étudier les scénarios dans lesquels ça se produit. Et jusqu'à maintenant, ces stress tests étaient rassurants. C'est-à-dire qu'ils disaient bah, en fait, ça passe. Ça passe même très largement. Sauf que là, on a une hausse des taux d'intérêt qui est très brutale. On a une récession qui vient se combiner.
Une récession qui n'est pas avérée aujourd'hui. Même l'Allemagne s'éloigne
d'une récession.
Un ralentissement.
Mais pourquoi on ne voit pas ce ralentissement? Parce qu'on avait la sortie du Covid qui devait nous donner des croissances à 2, 3, 4 points. Et on se retrouve avec des croissances qui ne sont pas loin de zéro. Il nous manque 2 points d'activité. Quand on les cumule sur la période avant le Covid jusqu'à aujourd'hui, il nous manque 2, 3 points d'activité dans les pays européens.
Il n'y a pas eu les milliards d'argent public.
On peut dire que ce n'est pas une récession. On ergote. Pour le modèle économique d'une banque, c'est cette activité en moins, elle pèse. Et là, on est en train de faire des stress tests en vrai. Parce que on se dit toujours que dans les stress tests, il y a toujours une petite part d'insincérité, ou en tout cas, c'est difficile de déboucler le modèle et le scénario jusqu'au bout, de savoir exactement ce qui va se passer.
Une banque systémique, c'est
les actifs.
C'est tellement complexe.
Mais c'est pas un problème. Stade, c'est pas systémique parce que le système.
Non, mais une banque dite systémique compte tenu de sa taille. Je veux dire, c'est complexe d'aller.
C'est très complexe. Et donc, on prend un petit risque, parce qu'on joue un peu avec le feu. On pousse à la limite probablement les stress tests tels qu'ils ont été faits, et on risque de se rendre compte que ils étaient peut-être un peu, ils sous-estimaient un petit peu la réalité. Et une fois qu'on a mis en place des stress tests pour assurer, et qu'on se retrouve dans des situations où on se met à douter de la sincérité de ces stress tests, alors là la panique elle peut apparaître. Et on peut se retrouver avec un vrai problème, c'est-à-dire à la fois un problème de modèle économique pour certaines banques, un problème de bilan pour certaines banques. Et vous voyez, renforcé par le fait qu'on avait mis en place des régulations pour faire en sorte que, même avec une diminution de leur bilan, elle pouvait quand même passer la crise. Et si on se rend compte que c'est pas vrai, on va se dire c'est pas vrai pour cette banque, mais c'est pas vrai pour toutes les banques. Et là, on est face à un petit problème.
Juste 20 secondes, 400 points de base en un an, ça aurait été 400 points de base en 2 ans. Pardonnez-moi, mais ça change tout. Parce que l'important, il n'est pas dans le rythme, l'important, il est dans le cap. Mais le rythme ensuite. Et précipite déjà, enfin, faut se préparer. L'économie, c'est pas des virages à 180 degrés. Et donc, je pense que le rythme et l'intensité a été déraisonnable.
Christine Lagarde continue à dire qu'elle veut retrouver ses 2% d'inflation, mais qu'en même temps, elle sera au chevet de la liquidité des banques et qu'elle assurera tout problème de liquidité, quoi qu'il arrive. C'est une information du Parisien, Stéphane Carcillo. La Seine-Saint-Denis décide de renoncer à l'expérimentation du RSA sous condition. Ce RSA sous condition, annoncé depuis un certain temps par Emmanuel Macron, a été rappelé la semaine dernière lors de son intervention à 13h. Les droits, les devoirs, la bonne vieille formule que tout le monde connaît. RSA en échange de 15 à 20 heures d'activité par semaine. Alors c'est visiblement plus une raison politique qui pousse la Seine-Saint-Denis à annoncer aujourd'hui son retrait de l'expérimentation. Stéphane Troussel, le président PS du conseil départemental, considère que cette expérimentation est factice, qu'en fait le texte est ficelé, qu'on va le glisser tranquillement dans la loi travail ou à l'été, et que c'est pas la peine de jouer à la comédie. Il reste 18 départements qui testent depuis le début de l'année. Alors c'est sûr que c'est plus facile dans la Creuse qu'en Seine-Saint-Denis. Il y a probablement moins de bénéficiaires du RSA. Plus largement, Stéphane Carcillo, cette histoire de RSA sous condition, est-ce que ça vous semble une bonne idée? Et est-ce que là, on n'est pas en train de se rendre compte de l'incapacité de la France à faire finalement de l'accompagnement personnalisé des demandeurs d'emploi?
Alors oui, ça me semble être une bonne idée au sens où c'est ce que les évaluations tentent à montrer, c'est qu'effectivement cet accompagnement renforcé, il peut avoir des effets forts, y compris sur des bénéficiaires dont on pense a priori qui sont très éloignés de l'emploi. On sait que ces bénéficiaires vont être sensibles à ces conditions, soit parce que ils veulent pas rentrer dans ces dispositifs actifs et donc ils vont sortir du RSA avant parce qu'ils ont les moyens tout seuls, soit parce qu'il leur manque des compétences ou ils ont des problèmes particuliers, et auquel cas les dispositifs sont censés les aider pour combler ces problèmes, ces difficultés, lever ces barrières à l'emploi. Donc ça marche. Est-ce que c'est
ça marche, mais encore faut-il les effectifs à Pôle emploi, dans les missions locales, qu'on sache faire ce que savent si bien faire les pays du Nord.
Bien sûr. Alors, il y a deux sujets. D'abord, est-ce qu'en termes de timing, le sujet, c'est que le taux de chômage baisse de manière tendancielle. Et à mesure qu'on se rapproche de 5-6%, on voit bien qu'on va devoir aider des personnes qui sont de plus en plus éloignées de l'emploi à rentrer sur le marché du travail pour faire face aux tensions sur le marché du travail actuel. Et donc, après les chômeurs de longue durée, il faut vraiment s'approcher et s'intéresser aux bénéficiaires du RSA pour les réintégrer sur le marché du travail.
2 100 000 personnes à peu près.
Et c'est un vrai sujet parce qu'il y en a les trois quarts qui sont bénéficiaires depuis plus d'un an. Et il y en a à peine 40% qui signent aujourd'hui un contrat d'insertion. Donc ce revenu minimum, qui est censé être un revenu minimum qui doit vous amener vers l'emploi,
ou le A de RSA,
vous aider, hein, voilà, vers l'activité et l'insertion, pour une majorité, ça débouche pas sur l'insertion. Il n'y a même pas de contrat d'insertion aujourd'hui, ni d'accompagnement actif.
Donc, encore une fois, j'en reviens sur la machine. La Cour des comptes indique qu'un bénéficiaire du RSA, il est contacté 3 fois par l'administration publique en 1 an. Et quelquefois, quand je dis dans les 3 fois, vous avez un simple mail.
Voilà. Donc il n'y a pas véritablement de... On ne considère pas jusqu'à aujourd'hui qu'ils sont prioritaires dans cet accompagnement. Alors, oui, il y a un vrai sujet d'organisation. Et c'est d'ailleurs, je pense, que la raison pour laquelle le gouvernement a voulu faire une expérimentation, c'était pour voir à quel point les services des départements étaient loin de l'objectif. En termes de capacité, en termes d'organisation, et donc il est clair que il y a un gros sujet, et je pense que c'était l'objectif de France Travail. Enfin, c'est l'objectif du projet de France Travail, en principe.
C'est le nouveau Pôle Emploi, France
voilà,
Travail.
Voilà, c'est censé justement.
Je vois pas en quoi le fait de changer le nom, ça va faire qu'on aura les compétences, et la culture même de l'accompagnement.
Bah, je pense que l'objectif, c'est de pouvoir justement mettre les bons services en face des bonnes personnes, et sortir uniquement de cette logique administrative dans laquelle les uns vont systématiquement vers Pôle emploi, les autres vont systématiquement vers des services soit municipaux, soit départementaux d'insertion, qui ne sont pas forcément les mieux équipés pour les accompagner. Mais enfin, au-delà de ça, je crois qu'il y a un vrai sujet du coup, effectivement, comme vous le dites, de capacité, parce que quand on veut faire ça, il faut clairement qu'il y ait en face des capacités en termes d'accompagnement. C'est-à-dire qu'en gros, ce dispositif ne peut marcher que s'il y a des gens pour accompagner les bénéficiaires de RSA, à la fois en termes d'accompagnement personnel sur le plan de carrière, sur le conseil, sur la recherche d'emploi, mais aussi en matière de formation pour les accompagner. S'il n'y a pas de moyens humains derrière, et on sait que pour ces personnes-là, les moyens humains doivent être beaucoup plus importants que pour les personnes qui sont employables et qui sont inscrits chez Pôle emploi, il faut en gros des conseillers avec des portefeuilles relativement réduits pour les aider. Donc là, il y a un gros enjeu humain, je pense, et aussi d'investissement.
Il y a un enjeu aussi politique, puisque le président de la République a utilisé le mot « responsabiliser », sous-entendu, les gens qui sont au RSA s'y trouvent très bien, et il faut un peu les pousser dans le dos pour qu'ils aillent vers l'emploi. Alors là, il y a un sujet très politique où on considère qu'on stigmatise des gens très éloignés de l'emploi. C'est un peu... plus le côté, est-ce que c'est un bon outil, est-ce qu'on est capable de le faire ? Léonidas, Kavadopoulos.
Oui, d'abord, je pense que derrière, il y a des éléments absolument essentiels du fonctionnement d'une société. Il y a d'abord le contrat social. C'est très important, le contrat social. Il y a la société qui vient apporter un soutien à quelqu'un qui est en difficulté. Quelque part, la société attend que cette personne retrouve une place normale d'autonomie. C'est fondamental. Et par quel canal ? Par le travail. Ça défend le travail. Enfin, ce sont des éléments de musculation de la société que je trouve absolument fondamentaux. Sur la manière de le faire, vous avez raison sur l'accompagnement. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je suis radicalement opposé au projet de revenu sans condition, et notamment celui qui est...
C'est un quasi-revenu universel.
Le revenu universel sans condition, qui est d'ailleurs défendu par un certain nombre de libéraux avec lesquels je suis en désaccord total.
Notamment Gaspard Koenig,
qui dit en substance, on dépense un argent de dingue pour accompagner des gens qui finalement seraient beaucoup mieux en tant qu'agents autonomes compétents pour savoir comment ils doivent utiliser l'argent qu'on leur donne. On leur donne et on se débarrasse de l'administration qui les suit. C'est-à-dire en substance, on leur donne un chèque pour solde de tout compte, prenez votre argent et puis globalement, débrouillez-vous. Et après, on a des hordes de punks avec des chiens un peu partout. Non, mais je suis désolé.
Je suis pas sûr que ce soit un effet du RSA.
C'est pas une question d'être un effet du RSA,
Allez au bout de votre idée.
Est-ce qu'on finance, est-ce que c'est le rôle de la société de financer le fait que des gens sortent de la société ?
C'est le rôle de la société d'avoir un filet minimum de sécurité et de solidarité.
C'est le rôle de la société de les ramener dans la société.
Oui.
Et de les ramener dans la société, c'est effectivement un travail qui est compliqué, qui demande des moyens, qui demande également que l'on invente de nouveaux outils. On a aujourd'hui des outils qui permettent d'être en contact régulier, d'appeler les gens, de leur signaler.
C'est pas comme ça que ça se passe.
Eh ben, tout ça n'est pas. Alors, lorsque vous demandiez qu'est-ce que France Travail modifie par rapport à Pôle Emploi, je crois que c'est le projet de Thibault Guilly. Je pense que c'est un projet absolument extraordinaire. C'est de se doter de nouveaux outils pour que il y ait une mobilisation générale pour que ce contrat social avec les bénéficiaires du RSA se remettent en place. Et je pense que c'est une chance pour tous les bénéficiaires du RSA, non pas parce que l'on considérerait qu'ils s'ennuient ou que quelque part on finance le fait qu'ils s'ennuient, mais parce que je pense qu'ils ne savent pas et il faut les aider à les ramener dans la société et dans le travail.
Il y a bien sûr toujours derrière, en filigrane, le débat sur l'inactivité, l'assistanat. Votre avis là-dessus, Xavier Timbaud? La réalité, c'est que le I de RMI et le A de RSA n'ont jamais vraiment fonctionné. Alors, je me dis que c'est bien d'expérimenter quelque chose de nouveau. Cette idée de droit et devoir est très politique aussi. Comment vous regardez tout ça?
Alors, ils n'ont jamais fonctionné, mais je pense qu'ils n'ont jamais fonctionné pour une très bonne raison. Et quand on écoute Stéphane ou Léonidas, on se dit, la valeur travail, c'est important. On est tous d'accord avec ça et ça fait partie.
Malheureusement, pas tous.
Non,
mais on doit continuer.
On doit
défendre et garder le cap.
On est au moins sur ce plateau tous d'accord avec ça, on va dire.
Pas le moindre doute.
Aucun doute là-dessus, en disant que c'est un squelette de la société, que c'est très important. Accompagner les gens qui sont au RSA pour les sortir de cette situation et les amener vers l'emploi, on peut être que d'accord.
Normalement, oui.
Voilà. Le problème, c'est que c'est toute l'ambiguïté qu'il y a eu autour du RMI et du RSA, c'est de savoir, est-ce que c'est un accompagnement? Est-ce qu'on aide les gens à travailler? Ou est-ce que c'est une obligation? C'est ça toute l'ambiguïté. Hein. Alors, on se dit
là, bien, ça devrait devenir une obligation.
Ça peut pas juste être un accompagnement fait gentiment, parce que probablement, il y a quand même des gens à qui il faut expliquer le contrat social hein, et leur dire, tu peux travailler, il n'y a pas de raison que tu ne travailles pas. Donc, mais le problème, c'est que la population qui est au RSA, au RMI, c'est pas que des gens qui peuvent travailler et qui travaillent pas parce qu'ils sont feignants.
On marque une pause. Dans un instant, j'y reviendrai. Parce qu'effectivement.
C'est quelque chose d'assez important.
Mais je vous rends la parole.
Mais on me coupe, je note.
Mais. C'est la pendule qui vous coupe. Parce qu'effectivement, après, il faut connaître cette population. Il y a tout type de population dans ces 2 100 000 personnes qui sont au RSA. L'avis de Léonidas sur le revenu universel, je le connais, mais peut-être que vous aurez un avis particulier sur l'impôt négatif à la Milton Friedman. Il y a autant d'architecture de revenu universel qu'il y a d'expressions d'ailleurs pour en parler. Hein, revenu de subsistance, revenu de décence ou je ne sais quoi. Enfin, tous les termes existent pour recouvrir des architectures et des modes de fonctionnement très très variés. A tout de suite.
Est-ce la bonne décision? Quelque chose trop tard pour moi? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Stéphane Carcillo, responsable de la division revenu-travail de l'OCDE, professeur associé à Sciences Po, également membre du Cercle des économistes. Avec nous, Léonidas Kalogeropoulos, PDG de Médiation et Arguments, vice-président d'éthique et qui a fondé les Entrepreneurs pour la République, et Xavier Timbaud, directeur principal de l'FCE, qui s'apprêtait à dire quelque chose de fondamental. Laurence m'écrit, mon association accompagne des créateurs de marques, dont des personnes en reconversion ou au RSA. J'ai essayé de faire un partenariat avec la Gironde, sans succès, l'appel d'offres a été remporté par je ne sais pas qui. Bon. Que vouliez-vous dire, Xavier Timbaud, avant que la pendule ne vous coupe?
Ce que je voulais dire, c'est que le RMI comme le RSA sont quand même fondés sur une ambiguïté qui est, oui, il faut ramener les gens le plus possible vers l'emploi et l'activité et les sortir de cette situation, mais le système, la sociologie, la réalité des choses fait qu'il y a aussi des gens qui sont dans ces situations-là et qui ne sont pas en capacité
pas
de pouvoir en sortir. Ou en tout cas,
est-ce qu'on,
ça demande
est-ce qu'on connaît, enfin, sur les 2 100 000, est-ce qu'on est capable de dire
elle existe.
Combien ont une chance de retourner vers l'emploi, combien sont trop éloignés pour plein de raisons, maladie, incapacité, décrochage scolaire très très précoce qui fait que même la lecture peut parfois poser un problème. Enfin.
Elle existe, cette sociologie, donc elle est documentée et on sait qu'il y a des populations.
C'est documenté.
Oui, et on sait qu'il y a des populations qui ne rentreront pas dans ces dispositifs d'accompagnement. Si jamais on en fait une obligation, bah, il faut qu'on dise ce qu'on va faire avec ces gens qui vont pas rentrer dans ces dispositifs obligatoires. Oui. C'est-à-dire, est-ce qu'on leur dit, ah, tu as pas voulu être accompagné, entre guillemets, hein, parce que cet accompagnement, il est assorti d'une obligation, donc c'est pas que de l'accompagnement, c'est quand même aussi la partie devoir des droits. Et donc, mais qu'est-ce qu'on fait là? On lui dit, on te supprime le RSA? Et
à un moment, il faudra faire du cas par cas, regarder profil par profil, évidemment.
Et Léonidas disait quelque chose, mais à mon avis, enfin, je suis pas en accord avec lui, la dignité de la société n'est pas que d'offrir un revenu décent à ceux qui travaillent. La dignité de la société, elle est d'offrir un revenu décent à ceux qui ne travaillent pas. C'est la raison pour laquelle, par exemple, il y a une allocation adulte handicapé.
Oui, oui.
Et on va pas dire aux handicapés, toi, ta partie de devoir, c'est quand même de travailler.
Non, c'est bon.
Donc, il y a une partie de la population. Alors, on peut discuter quelle partie, pourquoi.
Même, c'est important de savoir si sur 2 millions 100 000, il y en a quoi, non, 80 000 qui sont vraiment.
Il y en a pas 2 millions 100
000. Inemployables.
Bon, je parle encore sous le contrôle.
1 900 000.
Bénéficiaires. 1 900 000
bénéficiaires du RSA.
Dernier chiffre, et d'accord.
Je pense qu'il y a un noyau, on va dire autour de 30%, 40% de bénéficiaires du RSA qui constituent des situations qui sont de l'ordre de la situation assez grave.
Stéphane, c'est parce qu'il y a un moment, il ne faut pas le regarder avec de la morale. Il faut regarder comment ça fonctionne, qui est concerné, ce qu'on sait faire, ce qu'on ne sait pas faire, ce qui est possible, ce qui est du domaine de l'utopie. Ce n'est pas la peine de continuer à porter politiquement un projet avec une volonté politique de faire si on sait qu'on n'y arrivera pas. Et si la Seine-Saint-Denis le signale que, non.
Bah, le signal, c'est que c'est difficile, et je pense que c'est doit être clairement difficile, parce que les barrières, comme Xavier vient de le dire, les barrières à l'emploi sont multiples pour une partie non négligeable de ces bénéficiaires. C'est des problèmes de garde d'enfants, c'est des problèmes de santé, c'est des problèmes de mobilité, c'est des problèmes parfois de logement par rapport à d'éloignement de l'emploi qu'on propose,
des problèmes d'âge, etc.
Donc il y a toute une complexité qui fait d'ailleurs que c'est la raison pour laquelle l'expérimentation est hyper importante, parce qu'il y a des gros enjeux d'accompagnement de ces personnes très éloignées de l'emploi, c'est de rapprocher les services. Je donne toujours l'exemple de ce qui se passe en Norvège. En Norvège, un des grands succès, ça a été de mettre dans le même bâtiment les services sociaux qui s'occupent de tous ces problèmes de logement, de mobilité, de garde d'enfants, avec les services de l'emploi dans un seul endroit, qui s'appelle NAV. Et cette fusion qui a pris de longues années à être réalisée, avec des services municipaux qui travaillent main dans la main avec les services nationaux d'accompagnement pour l'emploi, ça a bénéficié justement à ces personnes les plus éloignées. Et donc c'est difficile
à faire.
Voilà
une expérience à regarder.
Ce que dit Stéphane est très important, mais excusez-moi, dans la loi sur le RSA qui a été proposée, il a pas été question de ça. Il a été question d'une obligation à travailler. Mmh. Et pas du tout pareil de dire on va vous accompagner et étudier vos services, vos problèmes et mettre en face tous les services de l'État ou des régions ou des départements qui peuvent y répondre. C'est pas ça. On dit mais maintenant le RSA, obligation de travail.
Obligation de travailler ou obligation de participer à une activité.
Oui, c'est le mot activité.
C'est activité.
C'est assez vague d'ailleurs.
Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir à un moment donné l'idée de dire il y a dans 6 mois ou il y a des jalons dans lesquels vous devez rentrer dans une activité.
Une activité de formation.
Alors ça peut être une activité de formation, ça peut être des ateliers, etc. Je pense que en fonction de la distance par rapport à l'emploi des différentes personnes, l'activité va pas du tout être la même. Et c'est ça l'objectif, c'est d'arriver à graduer
les discernements dans cette histoire.
Mais jusqu'à certains à qui on ne demandera pas d'activité.
Mais sur le papier, ça a l'air très simple. En pratique, c'est très compliqué parce que il faut qu'il y ait à la fois un réseau de formateurs, un nombre suffisant de conseillers pour offrir ces activités, aussi un réseau d'associations pour.
Mais qui sont extrêmement nombreuses et certaines très performantes.
Et il faut mettre toutes ces personnes ensemble pour arriver à travailler. C'est pas évident.
Sur la question de l'obligation, je voudrais juste répondre à Xavier Tabou, parce que la question de l'obligation, elle n'est pas tellement pour savoir si lui ou nous, vous allez contraindre quelqu'un au travail. C'est simplement le fait de dire vous avez des rendez-vous réguliers. Et ces rendez-vous réguliers doivent être des moments où on essaye de faire un pas devant l'autre. C'est juste faire en sorte que on garde un lien de sociabilité. C'est-à-dire que
je suis à 1000% d'accord avec ça.
Si vous ne faites pas ça, Xavier,
la seule chose que je dis, c'est que dans la loi, il n'a jamais été question de ça. Loi, on n'a pas dit vous avez une obligation d'être suivi par quelqu'un qui va vous faire un suivi personnalisé et qui va déployer tous les moyens qu'on a à notre disposition pour vous aider. Il a été dit on va vous obliger à avoir une activité Xavier, on peut mettre de la bienveillance dans le mot activité.
Je suis pas d'accord.
Vous, bon, c'est pas ça qu'on a fait.
Il y a un aspect qui sera fondamental, c'est de savoir si qui doit trouver l'activité. Non, mais c'est l'administration qui doit trouver l'activité.
Mais il n'y a pas que l'administration aussi. Pardonnez-moi, il y a les associations, elles sont extrêmement nombreuses. Il y a les entreprises. Globalement, c'est une mobilisation générale. Et pour ce qui est de savoir si oui ou non c'est une obligation, si la question que vous posez, Xavier, derrière, c'est de dire est-ce qu'à un moment donné quelqu'un qui n'a pas rempli ses obligations ou les couplets vivres, je suis pas en train de dire qu'il faut mettre les gens démunis, sans rien, à la rue, sur pavé. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que il doit y avoir une tension sociale, une relation sociale. Je ne veux pas, en tant que citoyen, avec tous les impôts que nous payons, que des gens se retrouvent à être, comment dirais-je, avoir comme seul lien avec la société le fait qu'ils reçoivent un chèque par mois pour solde de tout compte. Je trouve que c'est le degré zéro de la République.
Mais je vous rejoins mais complètement là-dessus. La seule chose que je dis, c'est que la loi telle qu'elle a été proposée ne répond pas à cette question.
Non, parce que
la complexité des situations et des moyens, et que tant qu'on ne le fera pas, on va rester sur des postures qui sont des postures droit, devoir, obligation.
Mais regardez
l'échec. Et ça conduit à quoi? Ça conduit à des frustrations de tous les côtés.
L'échec en Seine-Saint-Denis, c'est un échec politique. Ce sont des partis pris politiques qui font qu'on dit
souvent.
Non, on ne va pas le faire. Et malheureusement, l'échec qui est acté aujourd'hui est juste un échec, non pas de la volonté des bénéficiaires du RSA, mais de la volonté de ceux qui le distribuent.
Parlons d'une autre chose qu'on a faite en France qui est aussi un échec, qui est le fait de donner au département la responsabilité de la gestion du RSA.
Probablement, peut-être.
Voilà, et de leur donner, en leur donnant des moyens initiaux, mais en fait en augmentant les missions, en particulier avec cette loi, sans leur donner des moyens supplémentaires. Donc, qui disent à un moment donné, on n'a pas les moyens, on n'a pas l'argent, on n'a pas les compétences, et on n'a pas les services de l'État qu'on pourrait mobiliser là-dessus, et donc on ne veut pas le faire, ça ne me paraît pas être un parti pris politique qui est inacceptable.
J'ai comme à chaque fois qu'on évoque ce genre de sujet, plein de réactions pour chacun donne l'exemple de la personne au RSA qu'il connaît, qui vit très très bien comme ça, et qui s'en porte très bien, sous-entendu, il en profite. Il y a par exemple Arnaud m'écrit, je suis paraplégique, j'ai fait des études, je bosse, je ne touche aucune aide type allocation adulte handicapé. J'avoue avoir du mal à voir ces gens qui vivent aux frais de la société et qui se sentent stigmatisés quand on leur demande de se bouger. Bon. Toujours pareil.
Alors il y a effectivement aussi une
Stéphane
partie.
Carcillo.
Il y a une partie des il y a toujours des exemples autour de soi de personnes qui perçoivent le RSA et qui travaillent de manière non déclarée à côté. Donc le RSA est
un complément de revenu.
Hein, donc ça on a le cas. Donc un des objectifs aussi de cette activation obligatoire, c'est de dire à un moment donné ça va vous prendre trop de temps. Donc autant aller travailler à temps plein, hein, parce que ce qu'on va vous demander comme nombre d'heures d'activité, de toute façon vous serez pas capable de les faire. Donc il va falloir décrocher du RSA. C'est un des objectifs. Mais je suis complètement d'accord avec Xavier sur le fait qu'il y a une petite partie de ces bénéficiaires qui de toute façon ne retourneront pas vers l'emploi parce qu'ils sont d'un point de vue social, d'un point de vue parfois mental, d'un point de vue parfois de l'âge, ils sont tout simplement pas en mesure. Et donc c'est là toute la complexité de s'attaquer à ce problème sur ces populations, c'est qu'à un moment donné il y a une évaluation humaine qui doit être faite de la situation, et à un moment donné il y a des gens qui doivent être dispensés. De ces mais où est-ce qu'on met la barre? Et ça c'est toute la difficulté du dispositif. L'objectif de 100% personne n'y arrivera jamais pour des raisons véritablement parce qu'il suffit certaines personnes, il suffit de les avoir en face de soi pour se dire ça va être extrêmement compliqué, il y a trop de barrières, il y a trop de difficultés, trop d'instabilité parfois psychologique, et donc il va falloir qu'il y ait tout simplement un filtre humain pour la gestion de ce type de dispositif. Et je crois que tous les pays le font, parce que tous les pays sont confrontés effectivement, quand on aide ces populations très éloignées de l'emploi, à une toute petite partie de la population, qui est vraiment pas du tout employable.
C'est si complexe que la date pour atteindre les fameux 100%, mais qui semble effectivement illusoire, a d'ores et déjà été repoussée à 2027, tandis qu'elle avait été fixée à 2024 initialement. En marge de ça, mais moi c'est le sujet m'intéresse quand même, le revenu universel, est-ce que vous pensez qu'on ira au revenu universel?
Mais on a déjà un revenu universel en France.
Alors il s'appelle comment? Il s'appelle RSA.
Il s'appelle les 10 minima sociaux. Il y a plusieurs manières de faire le revenu universel. Hein. Soit vous le donnez à tout le monde, soit vous faites plusieurs types de minima qui sont ciblés sur des populations différentes qui couvrent tout le monde. Franchement, le diable se cache dans les détails dans ce type de dispositif. Quand on part de zéro, effectivement, on peut s'imaginer faire un dispositif de revenu universel. Lorsqu'on part d'un système tellement étoffé comme on a en France, qui couvre énormément de populations différentes, faire un revenu universel, ça va faire énormément de perdants. énormément de perdants. Parce que vous allez niveler, parce que les dispositifs aujourd'hui, soit vous faites un dispositif qui se cale sur le plus généreux et à ce moment-là, ça coûte mais alors des fortunes, soit vous vous mettez sur une situation médiane et à ce moment-là, comme vous faites un revenu universel qui doit être individualisé, c'est le principe du revenu universel, j'aide les individus. À ce moment-là, vous enlevez toutes les aides familiales, parce qu'aujourd'hui, le RSA et la plupart des autres aides sont modulées en fonction de la situation familiale. Et donc, vous allez faire perdre les familles, les couples, etc. Vous faites perdre beaucoup de modulation qui aide énormément de gens. Et donc, dans les simulations qu'on avait faites, nous, à l'OCDE, sur ce revenu universel, on se rendait compte que pour un certain nombre de pays, pour le plus grand nombre de pays, y compris la France, notamment, les familles sont extrêmement perdantes. Les familles modestes avec un des parents ou les deux parents qui ne travaillent pas sont extrêmement perdantes par rapport à ce revenu universel. Donc il faut voir aussi la faisabilité de ce genre de dispositif.
Le RSA sera revalorisé en avril, 607 euros par mois pour une personne seule, 911 euros par mois pour un couple sans enfant ou pour une personne seule avec un enfant, 1094 euros par mois pour un couple avec un enfant. Et alors une personne seule, à chaque enfant supplémentaire, ça peut atteindre quand même des montants qui sont au-delà du SMIC net, si on a 4 enfants. À 4 enfants, vous êtes au-delà du SMIC net. Effectivement, je me mets à la place d'une mère de famille qui a 4 enfants. Retourner travailler si le dernier a 6 mois.
Elle a le droit à la prime d'activité.
Oui, c'est oui, exact.
Qui est le complément qui vient du RSA, parce qu'au départ, c'était le RSA activité, et qui vient en complément, et qui lui aussi est modulé en fonction du nombre d'enfants. Donc tout ça est fait pour que, par rapport à la situation de non-travail, cette femme avec 3 ou 4 enfants gagne quand même plus que si elle ne travaillait pas. Attention, toute la réforme du RSA a été faite pour ça.
Voilà. Et le deuxième point, c'est quand même qu'on veut absolument éviter la pauvreté des enfants. Parce que, pour le coup, si on veut pouvoir diriger une aide qui n'est pas un revenu universel, mais qui est de garantir à tous les enfants qui vivent sur le territoire, quelle que soit la situation et les choix de leurs parents, un niveau de vie qui soit décent. Donc, si on renonce à ça, on renonce quand même à énormément de choses aujourd'hui. Et la notion d'égalité des chances et d'égalité d'opportunités serait totalement bafouée et balayée.
Bien. J'aimerais avoir votre avis sur... est-ce que vous arrivez à expliquer, parce que j'ai l'impression que c'est une énigme pour les économistes, et c'est un sujet qu'on aurait dû aborder en même temps qu'on parlait de la réforme des retraites et du poids du travail dans le financement de la protection sociale, c'est les fameux gains de productivité. Les gains de productivité baissent en France aujourd'hui, alors que ce fut le contraire par le passé. Ça a inscrit dans la tête des gens que oui, on a peut-être pas le plus grand nombre d'heures travaillées, mais qu'on était super super productif, beaucoup plus que les autres. On n'a pas beaucoup de rameurs, mais on n'a que des très bons rameurs. Et ben c'est de moins en moins vrai. On a le droit de dire qu'on ne comprend pas, Stéphane Carcillo, où il y a aujourd'hui des éléments factuels et totalement validés pour comprendre pourquoi les gains de productivité fondent.
Alors on a le droit de dire qu'on comprend pas tout.
Ah, mais c'est déjà bien pour démarrer.
C'est déjà un peu d'espoir. Donc non, il y a des raisons. D'abord, il y a une baisse tendancielle des gains de productivité qui est commune à tous les pays. Donc ça, c'est un peu le mystère parce qu'on voit.
Ça doit nous rassurer.
Non, mais parce qu'on voit aussi, énormément de nouvelles technologies qui devraient augmenter la productivité. Pour l'instant, on voit pas véritablement ces gains forts se manifester. Après, il y a des raisons qui sont aussi communes à tous les pays, qui sont le vieillissement de nos populations, qui est une tendance qui a effectivement tente à réduire la productivité. Et il y a des éléments aussi spécifiques à certains pays. À mesure que le chômage baisse, on a fait rentrer sur le marché du travail des personnes qui étaient moins qualifiées et donc moins productives. Et donc les emplois qu'on a créés sont des emplois souvent dans les services. Beaucoup de ces emplois sont relativement peu qualifiés et ça fait baisser la productivité par emploi.
Et puis il y a certains emplois où la productivité peut difficilement augmenter.
Voilà.
Quand vous coupez les cheveux de quelqu'un, vous n'allez pas faire x2 en termes de gain de productivité.
Mais
il y a peu de chance.
Voilà, vous dites effectivement, on a cette baisse des gains de productivité parce qu'au début, il y a quelques années, on se targuait d'avoir effectivement des gens très très employables et très productifs.
C'est le grand argument des défenseurs.
On avait 10% de chômage. À mesure qu'on fait rentrer sur le marché du travail des gens de plus en plus éloignés de l'emploi, et c'est les dernières réformes ces dernières années ont enrichi la croissance en emploi, mais c'est pour beaucoup des emplois qui sont relativement peu qualifiés, parce que 80% des chômeurs n'ont pas dépassé le bac, et donc on fait rentrer ces gens sur le marché du travail, les emplois concrets sont des emplois moins qualifiés. Alors, donc du coup, il y a un côté un peu plutôt positif de cette baisse de la productivité, c'est qu'on a créé beaucoup d'emplois, qu'on a remis en emploi un certain nombre de personnes, mais ça n'épuise pas le sujet de la baisse des gains de productivité.
Quelqu'un veut rajouter quelque chose? choses sur cette histoire de productivité. Allez-y, Xavier Timbaud.
Oui, il y a...
C'est souvent la mauvaise... C'est la mauvaise nouvelle qui explique le recul du chômage. Ah, le chômage recule, mais oui, mais c'est parce que la productivité recule.
Voilà, il y a un effet qui est lié au Covid.
Alors ça, c'est oui, ça c'est structurel.
Parce que on a vu dans la période post-Covid un effondrement de la productivité véritablement, avec comme contrepartie effectivement que beaucoup d'emplois n'ont pas été détruits, et ce qui a permis, par exemple en France, pendant la période du Covid, le chômage a continué de baisser.
Ouais.
Alors qu'on aurait pu attendre que ce ralentissement très fort de l'activité et le fait qu'on ne soit pas revenu au niveau d'activité d'avant le Covid se traduisent, ça paraissait presque assez logique même, se traduisent par une hausse du chômage. Or, on n'a pas eu cette hausse du chômage, on a eu un chômage qui a continué à baisser légèrement.
Ça continue les créations nettes d'emplois, même aujourd'hui.
Voilà, alors, donc ça c'est surprenant, ça ne peut pas s'expliquer par les non-qualifiés, ça ne peut pas s'expliquer par la technologie. Peut-être que ça peut s'expliquer un peu par la technologie d'ailleurs, mais... Très probablement, c'est lié au fait qu'on a maintenu en activité beaucoup d'entreprises grâce aux dispositifs d'aide spécifiques au Covid, et que ça se traduit par des entreprises moins productives qui ont moins de difficultés financières, parce qu'on a distribué trop d'argent, en quelque sorte, vers ces entreprises, et donc elles maintiennent dans l'emploi un certain nombre de gens. On pourrait appeler ça des entreprises zombies. C'est un petit peu péjoratif.
C'est péjoratif, mais
bon.
Mais
disons que ça nous permet de penser que petit à petit, il est probable que le jeu du marché reprenne son cours et que les aides étant progressivement éliminées, on va avoir à nouveau des défaillances dans ces entreprises-là et des pertes d'emplois et revenir à quelque chose d'un peu habituel.
Il y a cette possibilité de retrouver de la...
C'est pas une certitude. Hein.
Non, mais effectivement, ça pourrait être lié au fait que des entreprises vont tomber, vont recommencer à licencier, mais ça peut aussi être parce que la croissance va revenir. Et je pense qu'il y a un phénomène très conjoncturel dans cette baisse de compétitivité. Objectivement, on a une conjoncture internationale et un certain nombre de facteurs qui font que notre croissance a baissé. Et c'est parce que notre croissance a baissé qu'on fait le calcul entre les créations d'emplois, le niveau d'activité, et on se dit la compétitivité a baissé parce que entre les deux, le ratio n'est pas bon. Mais vous le rappeliez tout à l'heure, Xavier, notre croissance sortie de Covid, elle aurait dû être à 2,5.
Certes.
Et si elle était à 2,5, notre compétitivité serait supérieure.
Je pense qu'on a un
effet optique qui est...
C'est pas tout à fait optique, parce que on a depuis 2019 un déficit d'activité qu'on peut chiffrer pour la France à 3 ou 4 points. Habituellement, sur une période de 4 ans, quand on a moins 4 points d'activité, on a des destructions d'emplois.
Normalement,
C'est quand même... On peut retarder les destructions d'emplois de quelques trimestres, les retarder de 4 ans... c'est quelque chose d'exceptionnel.
On a créé une perfusion d'argent public au-dessus de l'économie, tout ces azimuts, qui est complètement unique dans l'histoire.
Ça peut être la raison pour laquelle on a gardé ça, mais on se pose la question aujourd'hui de supprimer cette perfusion d'argent public, de la réduire tout fortement, et donc qu'est-ce qui va se passer sur l'emploi?
Tout le monde se pose la question, même la Banque de France.
On va pas avoir 4 points d'activité qui vont arriver en un an, le jour où on va supprimer les dispositifs d'aide. Ça, on en est quasi sûr. On aura peut-être une très bonne surprise, mais
c'est le problème. On a pas mal de surprises. Avouez sincèrement qu'il y a plein d'économistes qui a prévu que l'emploi continuerait à être créé, que le chômage reculerait dans les circonstances économiques qui sont les nôtres aujourd'hui. Mais je voudrais juste revenir sur cette question de revenus universels et d'aide. Non, mais vous allez voir le lien entre les deux. L'aide à l'économie, l'aide sociale et la dynamique apportée. Est-ce que lorsque l'on apporte de l'aide, tout le monde s'endort sur les aides? Moi, je constate simplement qu'on a un filet protecteur social qui amène 1 million de Français à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et pourquoi est-ce qu'on se lance dans l'entrepreneuriat? Parce qu'on risque pas sa vie. Enfin, quelque part, on risque pas sa peau en prenant un risque de créer une boîte. On a une protection sociale, on a un cadre social, et finalement, ce cadre social fait qu'on se dit, je peux me lancer. D'autres, jadis, ne se lançaient que quand ils avaient un cadre familial qui leur permettait de prendre des risques. Mais prendre un risque, c'est un risque mesuré. Et de la même manière, pour nos entreprises, vous dites, on les a accompagnés financièrement et on a fait des entreprises zombies. Peut-être finalement qu'on va réaliser, et c'est une expérience in vivo que l'on va vivre en tirant le bilan de ces 3-4 années de post-Covid, peut-être qu'on va constater qu'en ayant accompagné les entreprises de façon un peu plus compréhensible massive qu'on le faisait par le passé, on a permis à des entreprises de créer des emplois, de créer de l'innovation, de se développer, et que finalement, ça va nous redonner un nouveau standard de ce qu'est l'accompagnement du dynamique entrepreneurial. Et je pense qu'on n'est pas au bout de l'apprentissage alors, que l'on va avoir de,
je,
de,
un mot.
De cette séquence. Ce que dit Léonidas, je suis mais alors, vraiment extrêmement d'accord avec ça. On va faire cette expérience. On les a appelés entreprises zombies. Je pense que, enfin, je n'aime pas du tout ce terme parce que il prend déjà un parti en disant
elles sont mortes et elles vont bientôt mourir.
Elles vont bientôt remourir.
Mais l'idée, c'est qu'elles n'auraient pas résisté s'il n'y avait pas eu les filets de sécurité et que la vie normale de l'économie les aurait fait trépasser.
Peut-être que
fallait 6 mois de plus pour arriver à vivre.
Admettons que c'est une expérience unique au monde.
Ce dont on va se rendre compte, c'est qu'en levant les contraintes de financement pour un certain nombre de PME, ce qui a été le cas avec le PGE. Ben, en fait, on permet à des PME de trouver leur équilibre et d'avoir des dynamiques et de prendre des dynamiques qui vont être plus positives. Et peut-être qu'on va s'apercevoir que justement la sélection qui est faite par les banques est trop dure et que elle brime l'économie.
J'aime bien l'idée.
L'empêche de se développer.
J'aime bien l'idée. Tout ce qui est expérimental me plaît.
Donc, on a déjà.
Vous voyez, là, on a l'expérimentation.
La création de la BPI répond à exactement cette même préoccupation. Là, c'est un peu comme si on avait fait une BPI pour tous à grande échelle.
Je vois. D'ailleurs, la BPI était derrière. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que la BPI dit bien, on accompagne des créations d'entreprises là où effectivement les banques ne voulaient pas le faire.
Exactement.
Et c'est une banque privée d'État. Mais parce qu'elle a apporté un regard nouveau, et regardez quand même, je pense que personne ne peut avoir la moindre critique philosophique sur ce que la BPI réussit à faire.
J'en connais pourtant, si. J'en ai beaucoup qui disent du bien de la BPI, mais beaucoup qui sont beaucoup plus dubitatifs entre considérant que c'est pas le boulot de l'État et qu'il y a des banques pour ça.
Non mais alors, pardonnez-moi, je voudrais juste abonder dans ce sens. Ah ben. Ça aurait été le boulot des banques, mais je dois dire que c'est fascinant. D'abord qu'elles ne le font pas, et d'autre part, elles se sont tellement habituées à la BPI que lorsque la BPI dit c'est pas tout à fait pour
ça, c'est malsain.
Ou cela,
c'est malsain qu'une entreprise qui n'est pas BPI compatible ne soit plus reçue dans une banque commerciale.
Eh bien, c'est le cas.
Eh bien, ça arrive,
Ça arrive, et c'est.
Ça, c'est pas normal.
Je trouve beaucoup de critiques, peut-être certains veulent critiquer la BPI. J'ai beaucoup de critiques sur les banques privées. Je trouve qu'un certain nombre d'entre elles.
Les plus critiques lui prédisent un destin ou. Destin du Crédit Lyonnais, quoi, ou d'Exia.
Écoutez, elle est bénéficiaire.
Aujourd'hui, oui.
Elle a créé un écosystème extraordinaire.
C'est potentiellement un sacré changement de paradigme.
De quoi
Les PGE, la BPI, le rôle des banques, le rôle négatif des banques sur le financement des PME, le fait qu'il faut des acteurs qui sont différents, qui ont d'autres incitations, qui ont d'autres missions que les banques privées. Enfin, c'est un sacré changement de paradigme dans le financement de l'économie.
J'aime bien votre idée de dire qu'on ne tirons pas tout de suite les conclusions des PGE, des entreprises dites zombies. Attendons de voir comment les choses... De toute façon, la réalité des faits économiques nous a tous tellement démentis depuis 1 an et demi, 2 ans, que ça appelle à pas mal d'humilité. Souvenez-vous, tous ceux qui nous disaient parmi les plus grands experts de l'inflation, dont les banquiers centraux, que ça allait durer 6 mois.
Nicolas, mais très sincèrement, nous aurions une bonne nouvelle, et je trouve qu'on est tous pas suffisamment préoccupés de ce qui se passe à l'échelle internationale, mais la guerre en Ukraine se terminerait dans une semaine. Nous aurions une croissance économique qui ramènerait la totalité de ce qu'on a dit sur la compétitivité française à être corrigée en quelques semaines, et nous remettrait dans une dynamique de croissance. Donc, véritablement, vouloir regarder un phénomène de manière étroite et ne pas regarder le contexte me semble pouvoir nous amener à faire de grosses erreurs d'analyse.
Il reste 1 minute 30. Stéphane Carcillo, est-ce que vous êtes intéressé par ce qui se passe à Clermont-Ferrand d'aujourd'hui jusqu'à la fin de la semaine? C'est le 53e congrès de la CGT. Pour la première fois, une femme pourrait prendre la tête de la centrale. Philippe Martinez porte une candidate CGT 21e siècle. Et la CGT Canal Historique s'inquiète que ce syndicat ne devienne la CFDT et souhaiterait porter la candidature de Céline Verzelletti, que les téléspectateurs connaissent bien car elle est une voix traditionnelle de la CGT lutte des classes. Comment vous regardez cette histoire en 2-3 mots, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps?
Écoutez, si la CGT veut devenir la CFDT, je pense que c'est un risque qu'il faut prendre. Parce que, non, la CGT signe très peu d'accords, ou quasiment aucun, au niveau national. En revanche, ce qu'on sait un peu moins, c'est qu'elle en signe beaucoup au niveau local.
À peu près 80% dans les entreprises.
Voilà, au niveau des entreprises, en fait, elle est beaucoup plus négociatrice et signataire d'accords qu'elle ne l'est au niveau national. C'est sûr qu'au niveau national, elle a des positions qui sont extrêmement, extrêmement dures et extrêmement peu, propices à signature d'accords. Donc, je ne suis pas sûr que les deux candidates aient vraiment des profils très différents de ce point de vue, hein, parce que, Bon.
Ouais, il y a demi-mot.
Mais on a fini. 12 secondes.
12 secondes, simplement. C'est vrai qu'il y a eu l'accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur. Seule la CGT, et on peut pas imaginer que ceux qui ont signé cet accord étaient des défenseurs du capitalisme outrancier. Donc, je trouve vraiment qu'il y a des moments où la CGT manque ses rendez-vous. Et puis, je suis quand même très, très surpris d'entendre, monsieur Martinez dire, benoîtement sur des plateaux de télé que, les dividendes, c'est du vol. Je pense que tant que l'on sera sur cette idéologie, là, voilà, il est temps que la CGT rentre dans le 21e siècle.
C'est l'une des actualités de la semaine. On en reparlera donc lors des prochaines émissions. Merci Stéphane Carcillo, Leonidas Kalogiropoulos et Xavier Timbaud. Rendez-vous demain à 9h.
Merci Nicolas.